Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 23h03 en France, il est 1h03 du matin ici au Qatar. Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là, également le 32-16 est ouvert. On va conclure notre débat sur l'équipe de France. Ensuite, on reparlera de la Pologne avec un journaliste, vous allez voir, qui va nous éclairer sur les forces et faiblesses de la Pologne. Bon, on a vu quelques faiblesses ce soir, on va principalement voir les forces, il y en a peut-être qu'on ne connaît pas, hein. On va voir ça dans quelques instants. Ce sera le 8e de finale des Bleus à 16h dimanche. Rappelons que l'équipe de France, si elle se qualifie en quart, affrontera le vainqueur du match Angleterre-Sénégal.
J'ai l'impression qu'on y va tout droit quand même.
En quart.
Non, tu sais ce que... ce à quoi je pense. Ah, on avait promis à Lionel qui devait parler de Tchouaméni, vas-y.
Qui nous donne son avis, qui clôturera le débat. Mon cher Lionel, nous t'écoutons.
Ok, non, juste vite fait, parce que j'ai entendu des mots qui ne lui conviennent pas, et on lui attribue un rôle qui n'est absolument pas le sien dans son groupe. J'ai entendu Tchouaméni leader, mais je tombe sur le cul. Tchouaméni ne vient pas en leader. Tchouaméni, dans la composition actuelle et dans le jeu qu'il doit faire, honnêtement, on lui demande d'être un milieu compensateur et un milieu destructeur. Mais en aucun cas, on lui demande, en tout cas Didier Deschamps, lui demande, regardez les matchs. Moi, je les ai regardés très attentivement. C'est mon métier et je sais le faire. Honnêtement, je sais pas faire grand-chose, mais ça, je sais le faire. Et lorsque Tchouaméni, à chaque fois qu'il y a une attaque, premier coup, c'est relance propre, tu restes derrière. Lorsque Rabiot monte, c'est Griezmann qui va côté droit. Et lui, en aucun cas, on lui demande de monter. Il est tout le temps là pour compenser et pour être destructeur du jeu adverse. J'en veux pour compte le premier, le match contre le Danemark, comment il s'appelle, celui qui nous avait fait tant de mal, l'attaquant qui nous avait marqué 2 buts, là, l'attaquant du Danemark. On ne l'a pas vu du tout, une fois seulement, à cause de qui ou grâce à qui? Grâce à Tchouaméni, qui n'a fait que ce rôle-là. Mais en aucun cas, aujourd'hui, Tchouaméni, c'est un leader du milieu de terrain ou quoi que ce soit. Il apprend son métier, il est là pour faire briller les autres, c'est un, entre guillemets, un porteur d'eau. Basta. Et pour moi, il le fait très bien, humblement. Mais arrêtez de le mettre, de lui en demander plus qu'il est capable de faire. C'est tout.
Non, mais personne ne lui a demandé plus.
J'ai entendu leader. Je tombe sur le cul. Je dis, mais c'est pas possible. Mais j'ai entendu, sûr. Créateur. Tchouaméni, créateur.
Tchouaméni, leader.
Arrêtez les conneries, les mecs. Arrêtez.
Tu tombes sur le cul ou tu tombes sur le cul?
Sur le cul.
Non, je crois pas. Alors, franchement, je crois pas. Vraiment, il faut finir ce débat, mais je crois pas qu'Oussem ait dit que Tchouaméni était leader.
Leader et créateur. Bon, alors, deux mots qui m'ont fait péter les plombs.
Peut-être. Alors, dans ces cas-là.
Non, mais peut-être qu'aujourd'hui, il devait l'être un peu plus, vu
parce qu'il est titulaire et il est entouré par des remplaçants.
Mais Daniel, tu vois pas l'équipe qu'il y a. On a été les premiers à dire cette équipe. Il avait à côté de lui des joueurs qui étaient, meilleurs.
Pour l'instant, c'est un jeune joueur qui est plus un adjoint, qui doit progresser, qui est un porteur. On a le droit d'attendre un petit peu plus, notamment de prise de risque au niveau de ses passes. Mais bon, pour le reste, ok, passons. Il a, je crois qu'on sera tous d'accord, encore une grosse marge de progression.
Les gars,
oui, tu sais ce que j'étais en train de dire sur le cas où on va tout droit.
Dernier petit débat à faire.
Cette Coupe du Monde, je sais pas pourquoi, je vois des quarts mais tellement attendus, les 8 équipes en quart qui vont tomber comme des évidences.
On s'achemine logiquement vers un Argentine-Pays-Bas.
Oui, non, je veux dire avec les équipes attendues, c'est-à-dire les deux Sudam, Brésil, Argentine, qui seront là, Angleterre, Espagne, France, Pays-Bas, Allemagne. Et je sais plus qui bouclera les 8, il doit me manquer peut-être si la Croatie passe, mais encore que je sais pas avec qui il croise. Mais en fait, on va avoir
Espagne
évidemment. On va avoir un top 8 totalement attendu. Je le sens un peu comme ça. Mais bon. Après tout, l'écart est très figé dans le niveau du football mondial.
Là, on mise sur un France-Angleterre. Moi, j'aimerais un France-Sénégal.
On est d'accord que c'est écrit, qu'on sent que c'est écrit d'avance, le France-Angleterre. Là, franchement,
c'est la logique absolue.
France-Pologne, c'est un gâteau. Tu as un adversaire comme ça en huitième, c'est cadeau, quoi.
Maintenant, une dernière question que j'aimerais qu'on se pose tout de même, c'est la suivante. Quelle va être la conséquence de la défaite? face à la Tunisie. Est-ce que vous considérez qu'il n'y en aura aucune? On s'en fout? Ou bien tout de même
il y aura des conséquences mentales.
Voilà. Alors Lionel, vas-y, entame la discussion. Lionel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que
je pense qu'à
l'Euro 2000, la France qui gagne l'Euro 2000 avait perdu son troisième match.
Oui. C'était pas le
même contexte. Oui, mais alors pas dans le même contexte.
Il y avait eu aussi un peu des polémiques sur les matchs de coiffeurs aussi.
Ouais, hein, ouais. Mais pas dans le même contexte.
Voulait pas jouer, machin.
Là, pas dans le même contexte.
Lama Barthez, notamment.
Ouais, il y a eu ça aussi. Mais là, pour moi, le contexte n'est pas le même. C'est le contexte, c'est cette composition, c'est tout ça. Ça va mettre des joueurs dans le doute. Ça va mettre aussi, à mon avis, Didier Deschamps dans le doute sur certains remplacements. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit continuer avec Kamavinga à gauche? Est-ce qu'il va s'entêter? Est-ce qu'il va continuer aussi avec de faire pour Pavard? Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, il y a un autre truc qui m'a fait aujourd'hui un petit peu réfléchir. Et pourtant, je l'ai trouvé excellent jusqu'à maintenant. Mais c'était sous pression. J'ai trouvé que la rentrée de Dembélé, il avait perdu énormément de ballons. Il a perdu énormément en technique par rapport à ses courses où c'était devenu désorganisé, précipité. Alors que quand tout va bien, Dembélé est excellent. Mais quand il y a quelque chose à faire, Dembélé perd peut-être un petit peu. Moi, personnellement, oui, Lionel, il m'a fait douter là-dessus. Alors, est-ce qu'il va pas douter plus tard? Est-ce que lui ne va pas douter? Est-ce que les joueurs ne vont pas douter? Pour moi, ça, il y a du doute qui s'est créé aujourd'hui.
Il y a des cas de figure qui seront différents. Les deux premiers matchs des Bleus, ils se sont retrouvés dans contexte classique, à savoir on doit faire le jeu. Donc tu as vu un Dembélé, un Mbappé dans des configurations, on va dire classiques.
Exactement.
Le troisième match, du fait qu'il y a eu des remplaçants et surtout qu'ils ont affronté un adversaire qui était obligé d'être entreprenant, qui était obligé d'être ambitieux, parce que le seul espoir de la Tunisie, c'était d'aller gagner. Donc, ils ont eu, face à eux, une équipe qui leur est rentrée dedans, comme tu as dit très justement. Le huitième de finale, donc ton inquiétude, je la partage peut-être, mais pour après. Le huitième, il est évident qu'ils vont se retrouver face à une équipe qui va jouer bloc bas, qui va pas essayer grand-chose et qui va croiser les doigts pour que Chesney fasse des miracles.
Entièrement
donc,
d'accord.
Tu risques d'avoir un Dembélé comme t'aimes,
exactement,
un Mbappé comme on aime.
Exactement.
La question que tu poses, avec c'est légitime de la poser, c'est pour le quart de finale. Tu te retrouves face à l'Angleterre.
Voilà.
Là, forcément, en même temps, il est normal qu'arriver en quart de finale, tu te retrouves à faire des gros matchs. Là, tu vas avoir une équipe qui va t'opposer, une véritable opposition qui voudra faire le jeu avec des joueurs offensifs qui savent te faire mal et des joueurs défensifs qui, a priori, n'auront pas peur de toi. Il faudra arriver en quart pour ça. On y sera, les Anglais probablement aussi. Et après, c'est normal. Qui est-ce qui disait dans une Coupe du Monde, de toute façon, il n'y a que trois matchs?
Michel Platini.
Voilà. Les grands hommes disent toujours des vérités. Et effectivement, souvent, c'est ça. Quand tu veux aller au bout, en tout cas, même en 98, c'est trois matchs.
Ouais, mais tu gagnes aussi. Tu gagnes.
En 2018,
du monde, tu
2018,
les gagnes avec
peut-être
un vrai effectif,
plus avec l'Argentine.
Ouais.
Oui, tu veux dire qu'il faut qu'il y ait un effectif complet. Et là, effectivement, moi, je ne vois que.
Je trouve
13
très
joueurs. Je vois que 12.
Exactement.
Combien t'en vois? 12, 13 ?
13. 12, 13, ouais. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, aujourd'hui, pourtant. Il n'a pas fait un match extraordinaire. Je trouve qu'il y a Colomouani a fait des belles choses.
Oui,
dans un.
Oui, oui, c'est dans le naufrage, c'était un de ceux qui a été le moins catastrophique.
Exactement.
Oui,
et voilà, c'était. Moi, voilà, lui, je pense qu'il est capable de faire quelque chose. Après. Il y a des mecs qui vont se retrouver, mais moi ceux qui me font peur, c'est ceux qui ont été exploités aujourd'hui à des places. Bah jouer, ça vous fera du temps de jeu. On dirait qu'ils étaient là. Bah même si tu joues à gauche, vas-y. D'habitude, je sais pas moi, d'habitude tu nettoies la salle de bain. Bah allez, va voir un peu dans le grenier, va faire un petit peu de trucs là-bas. On s'en fout. De toute façon, ça se verra pas quoi. Fais un peu de ménage comme ça. Mais ça veut dire que tu sers à rien quoi. T'es même pas mis pour t'exprimer et tout ça. Et surtout, ce qui m'emmerde, c'est ce 4-3-3. Pourquoi tu joues avec ton équipe B en 4-4-2? Je ne saisis pas. Je ne saisis pas, personnellement.
Bon, écoute, moi, franchement, quand tu vois les déclarations de Deschamps après-match, tu as vraiment l'impression que, bon, c'était pas sa priorité.
Il est passé à autre chose. Ah,
bah ouais, mais.
Mais limite, là,
pour moi, ça lui ressemble pas.
Moi, je suis dans le 9 décembre. Là,
ça lui ressemble pas, ça.
C'est vrai que ça lui ressemble pas, mais.
9 décembre, c'est le quart de finale, en l'occurrence.
C'est ça, je te dis, moi, je suis
Il y a un match avant, quand même, qu'il faut faire, parce que je te dis, moi, j'en suis certain, il n'y a pas, enfin, avec tout le respect, vois,
France-Mexique, France-Mexique, ah, évidemment, évidemment, j'aurais dit un 80-20, allez, 70-30. Ouais, ouais. Mais là, honnêtement,
c'est la France, son propre
adversaire. Parce que c'est le foot et il y a toujours des trucs un peu fous, pour moi, c'est un 95-5, quoi.
Si la France joue son jeu, la France doit l'emporter. Si elle ne joue pas, ils passeront la trappe et puis c'est tout.
Évidemment.
Allez, on va conclure avec Julien au 32-16, supporter de l'équipe de France. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Julien.
Tu voulais réagir sur Tchouaméni, je crois, mais si tu veux faire un autre avis global sur les Bleus, là on arrive à la fin du débat. Donc,
sur Tchouaméni et un peu sur ce qu'il vient de se dire en fait à l'instant. Moi je trouve que en fait c'est un peu dur par rapport à Tchouaméni. Je rejoins Lionel en fait dans ce qu'il dit. Faut pas oublier que Tchouaméni il a que 22 ans.
Bien
et
sûr.
Qu'il a qu'une année en fait au Real Madrid et que
c'est ses premières sélections.
Ça reste un jeune joueur donc.
Oui, mais le problème c'est qu'on est en Coupe du Monde. On n'est pas en championnat. Quand on est en Coupe du Monde, se dire qu'il n'y a pas d'autre choix que ça, t'es obligé d'avoir des petites
Daniel,
inquiétudes.
Je suis d'accord avec toi, sauf qu'en fait, on est en Coupe du Monde, mais on a deux victoires, on est qualifié et qu'on est une équipe new look. Et qu'en fait, on a des latéraux des deux côtés, c'est de l'expérimentation, clairement. Et en fait, au milieu de terrain, c'est pareil.
Mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait? La conclusion, c'est quoi? C'est que tu réclames de l'indulgence?
Non, du tout. Par rapport à Tchouaméni, oui, totalement. Parce qu'en fait, on a vu.
Oui,
que
mais
quand
le problème,
associé,
c'est que quand
il était associé
en Coupe
à Pogba, quand il était associé à Pogba ou à Kanté, on a vu que Tchouaméni était clairement au niveau. C'est juste que là, en fait, le football.
Le problème, c'est qu'en Coupe du Monde, l'indulgence, elle sert à rien parce que si t'es éliminé
là,
parce que t'es pas assez fort en quart contre une grande équipe, tu te diras juste, on n'a pas eu une équipe. Il y avait des trous dans l'équipe de mecs au niveau.
Tout à fait d'accord avec toi.
Mais qu'on juge pas aujourd'hui, quoi. Ce qui m'emmerde, c'est de le juger dans ce match aujourd'hui où personne n'a été bon.
Je suis d'accord avec Lionel clairement. Et Daniel, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que en fait. Là, clairement, ce qu'on peut tirer de ce match-là, c'est que les remplaçants ne sont pas forcément au niveau. Que ça soit Guendouzi, Fofana, ils sont pas au niveau, clairement, par rapport à Tchouaméni, où lui a prouvé, quand il était associé à Kanté ou Pogba, qu'il était au niveau. Tchouaméni, ça reste un joueur de 22 ans. Il ne faut pas non plus l'incriminer par rapport à ce match-là, où on est déjà quasiment qualifié. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi, je pense que par rapport à ce match-là, les seules conclusions qu'on peut en tirer, c'est que au niveau des latéraux, on n'a pas forcément de solution. Clairement, les seules solutions qu'on a, c'est Théo Hernandez à gauche. On n'en a pas d'autres. Camavinga peut dépanner, mais juste dépanner. À droite, à part Pavard ou Koundé, mais ça reste entre les deux. Ça sera pas Disasi, ça c'est sûr. Au milieu de terrain, quoi qu'il arrive, ça sera Tchouaméni, Rabiot. On l'a vu aujourd'hui. Les autres n'ont pas le niveau pour être à ce niveau-là. Et devant, je suis désolé, mais en fait, Griezmann, on se rend compte qu'il est indispensable dans le collectif, dans la manière de faire jouer les autres. Et Mbappé, indétrônable. Giroud, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une pièce maîtresse du jeu aujourd'hui par rapport au style de jeu.
Il y a même zéro doute, en fait.
Ouais, voilà.
C'est pas le match d'aujourd'hui qui va changer l'équipe.
C'est pas le match d'aujourd'hui qui va. On peut pas en tirer des conclusions par rapport au match d'aujourd'hui. C'est une équipe complètement. C'est une équipe bis, clairement. Donc, moi. Franchement, je me fais aucune inquiétude par rapport au huitième de finale. Quand j'ai vu la Pologne jouer, c'est pas mal, mais ça reste faible quelque part. Ça reste faible. On a clairement des forces nous dans notre collectif. Quand on voit l'équipe type alignée, franchement.
Et pour finir sur une note positive, et excuse-moi, pour moi, on a oublié de parler. Pour moi, Konaté ou Upamecano, Varane, même Saliba. Pour moi, ça a tenu la route et j'étais loin d'être conquis avant cette Coupe du Monde. Mais pour moi, là, encore Konaté aujourd'hui, il a été très bon, très très bon.
Allez, voilà pour l'équipe de France, évidemment. Demain, on y reviendra dans l'after et puis tout à l'heure dans la libre antenne de l'after avec Nico Villas et Thibaut Jagrand à partir de minuit. Vous pourrez là aussi encore vous exprimer sur les Bleus en toute liberté, comme d'habitude. On va parler un peu de la Pologne, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous un journaliste qui est un spécialiste du football polonais qui est là. Je vous donne de la cuillère. Déjà, je le remercie d'avoir patienté, parce que ça fait un petit moment qu'il écoute nos débats. Mathieu Pecknard est là. Bonsoir Mathieu.
Dobry wieczór, Lionel, Gilbert et Daniel. Merci de m'accueillir.
Eh bien écoute, c'est un grand plaisir.
Dzień dobry, c'est quoi ça?
Dzień dobry, c'est bonjour, mais bonjour, là, dobry wieczór, parce que là, on est un peu tard le soir quand même.
Donc, raconte-nous un peu, tu es passionné par la Pologne, tu es franco-polonais, enfin, quel est ton, ton histoire.
Ah ouais, donc si on a un petit peu de temps, hein, je vais essayer d'être rapide.
Ça sent la femme polonaise, les vacances qui ont bien
non,
tourné.
Non, pas vraiment, Daniel. Pas vraiment. Non, donc en fait, donc je suis pas franco-polonais d'origine. D'accord. Mais j'ai fait mes études et je me suis beaucoup intéressé à la Pologne de par mes études à la base. Et après, finalement, je me suis de plus en plus intéressé, principalement au football, parce que j'aimais beaucoup le football. Et que c'est un football qui est intéressant pour sa partie historique, etc. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est assez méconnu pour un grand pays d'Europe, hein, le football polonais, même la Pologne de manière générale. Et donc, je me suis dit qu'il y avait des choses à dire. Et donc, voilà, et je suis tombé dedans, on va dire comme ça. Et donc, pas de femme polonaise, Daniel.
Très bien. Moi, j'ai vu un match de championnat un jour en Pologne, Legia Varsovie. En grosse ambiance, ouais. Attention.
Oui, le Legia qui est certainement l'une des plus grosses et meilleures ambiances d'Europe. Ouais.
Bon, d'Europe, carrément, tu dis, toi.
Oui, oui, c'est vrai, les connaisseurs disent ça, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, pourcentage de chance de la Pologne, 5 5%.
Non, alors 6%. Oui. Alors j'ai entendu parce que j'ai suivi le débat avant. J'ai entendu le 5. Non, je dirais un petit 12,5 pour être précis.
Ah oui.
Oui, 12,5. Oui, t'as pris. Il aime les maths, Mathieu. Oui.
Non, mais on est d'accord qu'il y a pas assez
ça
de.
Ça fait une chance sur 8.
Il n'y a pas assez de qualité en fait dans cette équipe parce que avoir voilà. Une pointe comme Lewandowski si tu lui apportes pas des ballons
c'est Szczęsny qui dit la France est largement favorite, c'est une des meilleures équipes du monde, on fera de notre mieux pour essayer de passer. Bah oui. Comment faire pour stopper Mbappé? Eh ben moi-même. Il dit ça.
Le truc, c'est que je ne sais même pas si les Polonais vont aborder le match en se disant jouable ou si déjà ils ne se disent pas 8e de finale, c'est non, bien, passons à autre chose.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que déjà le match face à l'Argentine, il y avait les déclarations de Krejčovic, de Chesney, de Mirniewicz, avant déjà le match face au Mexique qui disait de toute façon, il ne faut même pas compter d'avoir 3 points pour ce match. Donc. C'était déjà la mentalité de base.
Mais c'est pour ça, moi, je te dis qu'ils n'ont même pas la mentalité. Si c'était le Mexique ou des équipes comme ça, elles y vont, elles disent, c'est pas grave, on tente le tout pour le tout, ça joue, hein, il peut y avoir un accident. Mais eux, je pense qu'ils vont même arriver en victime.
Non, mais bon, je dirais peut-être pas victime, hein. Mais arriver avec.
Non, mais genre, on sait qu'on va perdre, quoi.
Arriver, je pense que ça sera plutôt dans le genre, oui, de toute façon, on a très peu de chance, on va essayer quelque chose, ça sera certainement très défensif.
On va se prendre un bus.
On pourra en parler.
Ouais, tu vas prendre un bus, oui. Mais là, il est pas très solide, il a les carreaux cassés, le bus. Hein.
Bah écoute, ouais, j'espère.
Un beau bus. Bah, Mathieu, quand même, il y a quand même Lewandowski. Faut quand même
oui, en fait, c'est ce qu'on disait avant, il y a Lewandowski, mais si c'est juste Chesney ou Glick qui fait une passe au-dessus du milieu, tu peux servir Lewandowski comme tu veux, ça peut être l'un des meilleurs attaquants du monde. Il peut pas faire grand chose, on l'a vu, hein, face au match, face à l'Argentine, des fois, il y avait quatre joueurs autour de lui, il y avait personne derrière en soutien, etc. Enfin, il peut pas tout faire tout seul. Et c'est ça le gros problème de la Pologne, c'est-à-dire qu'on est très bas, ça défend, c'est un bloc très bas, des lignes très resserrées. En principe, comme on avait vu, ça a toujours été le jeu de la Pologne, hein, l'Euro 2016, c'était la même chose, sauf que ça a explosé après en contre-attaque, ouais, avec Wojciechowski.
Ouais, t'avais des joueurs qui étaient capables de jouer dans des transitions rapides, mais ils existent plus.
Ça va un peu de vitesse. Donc, là, il y a même pas la vitesse.
Donc là, Lewandowski tout seul, plus lui, c'est un vrai neuf. Si encore t'as un neuf, j'en sais rien, moi, façon Haaland ou Drogba de l'époque.
Oui, tu veux dire qu'il peut partir en puissance.
Il peut partir et t'éliminer 3 mecs et mettre une frappe à l'entrée de la surface. Mais c'est même pas Lewandowski, c'est même pas ce genre d'attaquant là, quoi.
Donc
c'est des oui, bah, non, mais encore mieux, évidemment. Ouais. Mais là, je sais même pas comment tu peux lui apporter le ballon à lui. Franchement, je vois pas.
S'il la garde parce qu'on les a vus aujourd'hui, c'est là où j'en voulais aux Polonais, parce que même lorsqu'ils avaient l'occasion de faire des contre-attaques, j'ai vu Szczęsny à un moment donné qui donne un ballon de contre-attaque, mais ils sont à 4 contre 3, pieds sur le ballon, et on joue, et on joue à la baballe et tout ça. C'est-à-dire que même les contre-attaques, ils les jouent pas. Je pense
que pour le match d'aujourd'hui, on a bien vu qu'ils avaient le cul entre deux chaises. Enfin, la seconde mi-temps, c'était pas une parodie de foot, mais pas loin quand même. C'est-à-dire que ça jouait à la baballe un peu des deux côtés au bout d'un moment.
Surtout la fin.
Ouais. Ouais. Mais globalement, c'est le problème qu'il y a. C'est-à-dire que même sur le papier, si on prend la Pologne sur le papier, t'as Lewandowski, Milik, Piontek, Jelinski, même Szymanski qui est plutôt un créateur et qui joue plutôt bien aussi au Feyenoord. Mais en fait, il y a pas de lien et on le voit en fait avec le milieu. Enfin, Bielik et Krychowiak, ça arrive
il
pas.
Il a deux trois attaquants de qualité, mais l'entraîneur là, le Jean-Pierre Caillot polonais là, il les fait pas jouer ensemble.
Il ressemble de loin à Jean-Pierre Caillot.
C'est le problème de Mirkniewicz. Hein. Mirkniewicz a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'on a quand même depuis 12 matchs, il a repris la sélection après Paulo Souza, qui est parti un peu en voleur avant les barrages. Et il y a eu exactement 12-11 différents titulaires, 7 systèmes différents, 33 joueurs essayés, etc. Donc en fait, il ne trouve pas cette espèce de lien qu'il peut y avoir, même dans le groupe, sur le terrain ou à l'extérieur, c'est compliqué. Et ça se voit sur le terrain, hein. c'est ce qu'on voit globalement. Que ce soit même face au Mexique, même face à l'Arabie Saoudite, c'était plus du MMA que du football face à l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais c'était pas forcément. C'était un match qui était intéressant à regarder en tant que spectateur extérieur, en tant que spectateur suivant la Pologne, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, et on voit qu'il manque ce lien.
Mathieu, merci beaucoup. Et puis bon, je pense qu'on va se rappeler. Hein.
Se rappellera. Et puis la Pologne va gagner certainement, donc on se rappellera.
Au péno,
c'est jouable. Hein, parce
au carton.
Le grand homme de la sélection, c'est Chesney quand même, hein, sur ces trois matchs. Hein.
Il a on dit Chesney en polonais.
Chesney, si vous voulez un petit peu.
Ah ouais. Très bien.
Il fait un très très bel arrêt sur le pénalty de Messi.
La dernière fois que la Pologne avait passé la phase de poule, c'était en 86. Donc ça date.
Effectivement. Et après, on s'était fait taper par le Brésil.
Qui avait gagné la Coupe du Monde. C'était en 86
tu dis ? Non, 86.
C'est 86. Non, j'avais pas entendu 86.
Merci Mathieu, bonne soirée.
Et Dobranoc.
Dans un instant, on va prendre des cours de polonais. Peut-être à rappeler Ludovic Obraniak d'ici dimanche, qu'on salue, bien sûr. Parce que nous, on sait qui est Ludovic Obraniak. Et on respecte Ludovic Obraniak. Grand joueur, Ludo. Voilà.
Gentil Ludo. D'ailleurs.
Magnifique, évidemment. Dans un instant, l'Argentine, le reste de l'actu du jour. On ira peut-être même faire un tour en Australie d'ici minuit, 4h du matin à Sydney. Grosse fête dans les rues. Enfin, pour ceux qui aiment le foot, hein, parce que l'Australie, il y a aussi pas mal d'autres sports. Mais le foot se développe beaucoup en Australie. Allez, on est là jusqu'à minuit dans l'after, évidemment. Et après, jusqu'à 1h du matin, ça continuera avec la libre antenne de Thibaut et Nico. A tout de suite.
RMC. After Foot, intégrale Coupe du Monde. Gilbert Brivois.
Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là également. Il est 23h29 à Auxerre, 1h29 du matin ici à Doha. Et on est là jusqu'à 1h justement, en heure française.
Je m'en fous d'Auxerre, je suis à Paris.
Pardon, c'était pour donner des nouvelles.
Je suis chez toi, je suis sur ton siège, je me prends pour Gilbert.
Très bien.
T'es bien assis d'habitude, toi. C'est le chef, voilà, le siège du boss.
Bah écoute, on prend sur la meilleure chaise. Hein, c'est normal.
Ouais.
Alors.
T'as raison.
Avant d'accueillir Georges Quirino, je voudrais vous parler de l'état de santé de Pelé, qui inquiète tout le Brésil. Et alors, le Brésil joue après-demain, ici au Qatar. Et Pelé a été hospitalisé il y a quelques heures maintenant dans un hôpital de Sao Paulo. Il a 82 ans, il souffre d'un cancer. On parle également de confusion mentale. Alors, sa famille a été assez rassurante, mais enfin, tout de même, les nouvelles médicales ne sont pas très bonnes. Il suit une chimiothérapie qui ne donnerait pas de résultats. Voilà, la star du Brésil est très mal en point. Et évidemment... le jour de sa disparition sera sans doute un jour très funeste pour le Brésil, tant il a marqué l'histoire du pays, du foot.
Ce sera Maradona pour l'Argentine, et si ça tombe en pleine Coupe du Monde, le symbole va être immense, et pour les Brésiliens et pour les joueurs de la Seleção qui sont ici, qui évidemment mettront encore plus d'émotion dans leur match, comme pour lui rendre hommage, quoi, finalement. Ça peut être fort, et malheureusement, effectivement, les échos qu'on a... donne à penser que c'est possible que ça arrive pendant cette Coupe du Monde.
Voilà, donc malheureusement, l'état de santé de Pelé n'est pas bon.
Et ça n'a rien à voir, parce que c'est pas du tout la même chose en termes d'état de santé, mais Neymar, même pour les huitièmes, ça va être bouillant. Attention.
Alors, puisque tu veux en parler, j'ai les infos. En fait, il y a même une chaîne au Brésil, TNT Sport, qui aujourd'hui a commencé à évoquer un forfait pour toute la compète.
Mais c'est fort probable. Je peux croire à ça.
Ils ont expliqué aujourd'hui qu'il y avait très peu de chances de voir Neymar déjà pour le 8e.
Ouais.
Alors le dernier match, c'est déjà mort, hein, ça c'est sûr. Huitième compliqué, voilà, entorse de la cheville, je le rappelle, avec lésion ligamentaire.
Ouais, c'est juste lésion.
Oui.
Partielle.
Donc apparemment, il bosse tous les jours. Vous savez, la fameuse clinique Aspetar ici, qui paraît-il pour les sportifs est la meilleure du monde.
Eux, ils croisent avec.
Menée notamment par l'ancien.
Ils croisent avec en huitième avec le groupe du Portugal. Donc c'est le deuxième de ce groupe-là. Ouais. Bon, ouais, c'est un huitième qui est à la portée d'un Brésil même sans Neymar.
Ouais, c'est après pour le cas, ça va se compliquer.
Après, ça devient plus compliqué.
En tout cas, voilà, les nouvelles sont pas bonnes concernant Neymar. Apparemment, son pied a dégonflé, mais il aurait des difficultés toujours, des douleurs, voilà, ligamentaires. Bon, évidemment, Lionel, la cheville pour un footeux.
Surtout lui, c'est un artiste. On le voit, il a une main à la place du, enfin, il a deux mains à la place des pieds. Donc, c'est tout le temps dans la dextérité. C'est beaucoup d'amplitude gestuelle et surtout au niveau des chevilles et des genoux et des hanches. Bon, voilà. Mais surtout les chevilles, il enveloppe le ballon, il fait tout ça. Il peut jouer. Alors tu peux jouer. Moi j'ai joué par exemple, mais j'étais gardien de but, mais où j'ai des copains qui ont joué attaquant avec t'as carrément un plat, tu mets un strapping, mais avec des étriers de tous les côtés, mais pas les créateurs quoi. Voilà, tu fais ça quand t'es stoppeur, gardien de but. Ouais, voilà. mais un créateur comme lui, tu peux pas lui bloquer.
C'est sûr, il pouvait jouer même en bout de boots. Hein.
Mais voilà, on avait des parpaings nous à la place des pieds, donc ça nous changeait pas trop. Mais Neymar, ça va l'handicaper, c'est évident.
Ah oui. C'est vrai que t'as joué avec des mecs qui pouvaient jouer en chausseurs de ski quand même.
Bah ouais, moi j'en avais un peu des fois.
Et puis encore un blessé, Nuno Mendes, le portugais. Lui aussi pourrait très bien ne plus rejouer avant la fin de la Coupe du Monde.
Ça c'est plus prévisible. Ça. Ouais. On l'avait
contracture à la cuisse. Hein.
On l'avait senti ça, ouais.
Donc là, pareil, à confirmer, mais il est.
Ah, si c'est contracture, il devrait pouvoir rejouer, mais c'est à mon avis.
C'est que
c'est
les mecs du PSG, donc ils vont être à l'aise à ce pétard.
Ouais, bah là, ils ont leur marque là-bas.
Ah bah oui, ils sont à l'aise là-bas.
Non, mais ça, j'ai même pas fait.
Élongation, ça serait plus compliqué. Contracture, ça va encore. Mais pour moi, il a plus une élongation vu comme il s'est comporté qu'une contracture.
Allez, l'Argentine maintenant, parce que là, l'Argentine, il y a un truc quand même incroyable qui se passe, c'est qu'on avait quitté Georges Quirino l'autre jour, il était en mode caca-culotte avant l'Arabie Saoudite, et puis là, l'Argentine ce soir, on a l'impression qu'on a une équipe complètement transformée.
Ça y est, ils vont commencer.
On en avait parlé, Daniel.
À nouveau, qui peuvent gagner la Coupe du Monde.
Et Georges,
c'est reparti.
Georges est avec nous, Georges Quirino Chavez, spécialiste du foot argentin en direct de Buenos Aires. Salut Georges.
On n'a jamais été inquiet ici. Salut à tous.
Oh, t'es un peu ton pipeau.
Non. Il y avait une grosse anxiété. Franchement, on a déjà l'impression d'avoir vécu deux mois de Coupe du Monde ici, en fait. Tellement il s'est passé de choses avec cette sélection argentine qui avait perdu le match d'ouverture face à l'Arabie Saoudite, qui a gagné ce match de la mort face au Mexique où le niveau de jeu était vraiment pas terrible, mais l'important c'était de gagner. Et là aujourd'hui, c'était un peu le troisième acte où alors la Pologne était très faible. Je vous écoutais tout à l'heure et les spécialistes ici sont assez d'accord pour le dire, mais même si l'adversaire était faible, ça a quand même permis à l'Argentine de se retrouver. C'est un peu le discours ici de tout le monde et des anciens joueurs de Messi il y a quelques instants qui dit voilà, on a réussi à retrouver notre jeu, on a retrouvé la mémoire, ce que l'on était, l'équipe qui a gagné la Copa América, l'équipe qui a enchaîné les 36 matchs consécutifs.
Mais est-ce que tu as revu l'Argentine que tu connais dans le jeu, Georges? Parce que moi j'ai été séduit par ce que j'ai vu ce soir. Est-ce que tu as retrouvé, niveau que tu connais, t'es habitué à voir, c'est ce qu'on a vu ce soir, c'est le niveau de l'Argentine que tu connais?
C'est le niveau de l'Argentine qu'on a vu sur la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde. C'était pas forcément celle de la Copa América. La dernière version était la meilleure, celle des 36 matchs consécutifs sans défaite, où justement il y avait de l'intensité, il y avait de la volonté d'être protagoniste tout le temps, d'aller vers l'avant, de toujours être dans ce jeu vertical. Et là, ils ont retrouvé ça en fait, Daniel, parce qu'ils ont retrouvé des joueurs qui leur permettent peut-être de rejouer ce jeu-là. On sait que l'absence de Lo Celso a posé beaucoup de problèmes à Scaloni, et là ça fait deux matchs, il a mis Alexis McAllister de Brighton, qui aujourd'hui a encore fait un match hyper intéressant. Ne parlons même pas de Enzo Fernandez, 21 ans, qui s'est installé dans ce milieu de terrain et qui, je pense,
c'est fini, il bouge plus là.
Là, je pense qu'aujourd'hui, il a donné une passe décisive, énorme volume de jeu. Il permet justement de retrouver cette circulation fluide qui était le jeu de l'Argentine, ses passes courtes, cette verticalité, aller vers l'avant, mettre de l'intensité. Il a redonné l'ADN qu'avait l'Argentine, justement. Il a même réactivé, on a l'impression, Rodrigo De Paul à côté de lui, qui était complètement endormi depuis le début de la Coupe du Monde.
Il a été bon aujourd'hui.
C'est le garçon qui a redonné la mémoire. Ouais, il a été très bon. Et donc, c'est a priori, je pense que Paredes, on l'a vu, il est rentré en cours de match, pas à la place d'Enzo Fernandez d'ailleurs, mais je pense que Enzo Fernandez désormais c'est le petit chouchou de toute l'Argentine, de tous les consultants. On a entendu Hernán Crespo, entendu Oscar Ruggeri, champion du monde 86 également, en parler il y a quelques instants. C'est le garçon. Et puis l'un des débats qui va peut-être aussi s'installer dans les prochains jours, c'est est-ce que Lautaro doit continuer d'être le numéro 9 de cette équipe, parce qu'on a vu aujourd'hui un très bon Julian Alvarez.
Il s'est créé beaucoup d'occasions.
Les deux jouent ensemble à River Plate. Exactement, et ces deux-là ont joué ensemble avec Enzo Fernandez, ils se connaissent par cœur.
Dybala, il part de loin.
Ouais, mais Dybala, en fait, alors je sais que Jérôme en parlait aussi il y a quelques jours, Jérôme Rotten. En fait, Dybala, le problème, c'est que sur tout ce cycle Scaloni, qui compte une cinquantaine de matchs, il n'en a joué qu'une vingtaine, et à chaque fois que Scaloni l'a appelé, il était soit blessé, soit malade, soit il n'était pas en forme. Et en fait, il a raté le train à chaque fois, en fait, Dybala. On l'a juste vu lors de la finalissima, vous savez, ce fameux match quand il a rentré deux minutes. Mais s'il est arrivé à cette Coupe du Monde, il était beaucoup blessé avec la Roma, il a joué qu'une moitié de match. Dybala, en fait, dans l'esprit de Scaloni, c'est le remplaçant de Messi. Et donc, en fait, à partir du moment où Messi ne sort pas, Scaloni l'a dit d'ailleurs quelques instants en conférence de presse, il dit « Moi, si Messi ne me demande pas de le sortir, je ne le sortirai jamais. » Donc, Dybala, il n'est pas prêt à rentrer, en fait.
Donc, c'est toujours Messi qui
fait l'équipe. Mais ça, c'est sûr.
Même s'il n'y a plus notre ami...
J'aimerais qu'on parle deux secondes de Di Maria. Qu'est-ce que tu en penses, Georges, de Di Maria? Dans quel état de forme tu le vois, toi? Moi, il ne passe pas grand-chose, quand même.
Moi, je trouve quand même aujourd'hui, tu l'as pas trouvé bon. Je trouve qu'aujourd'hui,
je pense qu'il peut faire évidemment beaucoup mieux. Est-ce qu'il est capable de faire beaucoup mieux? C'est pour ça que je m'interrogeais sur son état de santé, son état de forme, parce que il vieillit, quoi.
Alors,
mais je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux.
Il était un peu touché.
Ouais.
Il est sorti parce qu'il était un peu touché au quadriceps, c'est ce qu'a dit Scaloni il y a quelques instants, donc il n'a pas voulu prendre de risques. Moi, je me pose la question, est-ce que, au fur et à mesure de cette compétition, Scaloni va pas le remettre dans une position de super sub, comme c'était le cas à la Copa América, où justement, en sortie de banc, en jouant 30-40 minutes, on voyait
et
tout le
Di Maria qui arrivait
à faire les différences. Tu peux mettre, par exemple, pourquoi pas Julian Alvarez, justement, sur un côté, et comme ça, tu le fais jouer avec Lautaro Martinez. Pourquoi pas mettre un Dybala, peut-être aussi. Mais j'ai du mal à croire qu'il le sorte du 11, parce que c'est un coup de cadre qu'il sort depuis le début de la Coupe du Monde. On sait qu'il a déjà sorti Paredes. Il a sorti Romero, à un moment donné, qui était son cadre de défense, même si là, il est revenu en force. Quand même, je vois Di Maria parmi les cadres. S'il le sort, c'est qu'il est pas bien physiquement. Sinon, je le vois quand même débuter les rencontres. Et aujourd'hui, il a été... moi, je trouve qu'il a été l'un des joueurs au mieux. Aujourd'hui, je trouve que tout le collectif a été intéressant. Ce qui est surtout souligné par la presse
ici, ça m'a plu.
On n'a pas eu un grand Messi. Daniel, je sais pas si t'es d'accord, mais on n'a pas eu un très grand Messi. En plus, il a raté un penalty. On avait l'habitude de voir l'Argentine.
Franchement, les pénaux, ça devient pénible.
Il est bien tiré. Là, c'est.
Tu t'appelles Messi, le péno, tu le mets. Merde.
Alors, le péno. Il est bien tiré, toi.
Le péno, c'est un cadeau. Le péno, c'est un cadeau, quand même.
C'est un péno spécial Messi. Parce qu'il n'y a pas péno.
Il n'aurait jamais dû exister, le pénalty.
On ne peut pas mettre un coup dans le nez de Messi.
Je suis désolé, c'est la VAR qui a donné le péno. La VAR, c'est la justice.
Non, mais la VAR, aujourd'hui, ils ont fait un festival. En tout cas, ces quatre-là.
Non, moi, je vous dis la justice. C'était les supporters argentins qui étaient à côté de moi. Parce que j'ai suivi le match dans un bar avec des centaines de supporters argentins qui m'ont dit la justice, c'est. On touche pas à Messi. À partir du moment où on touche à Messi.
D'accord.
Mais c'est comme ça qu'on l'a senti quand l'arbitre a dit péno.
Ouais, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est qu'avant l'Argentine, quand Messi ratait un penalty, Messi baissait la tête et c'est toute l'équipe qui baissait la tête. Là, on a vu Messi rater le penalty et lui, il a dit allez, vas-y, c'est parti. Et derrière, c'est l'équipe qui l'a porté finalement.
Et le stade, tout de suite, dès qu'il a raté, c'était Messi, tout le monde, enfin, tous les supporters qui étaient. De toute façon, le stade, il était argentin.
Il n'y a que des Argentins, c'est une folie, le nombre.
Mais la bonne réaction du stade, des supporters, et voilà. Oui, exactement.
Il y a une énergie positive maintenant autour de cette équipe, c'est-à-dire que la pression négative a été aspirée du premier match.
Après, ce que dit Maria, je rejoindrai.
Ils se sentent quand même invincibles, ces garçons-là.
Je rejoindrai Daniel un petit peu. J'ai l'impression qu'il a perdu. Alors, toi, tu me dis, c'est peut-être une blessure ou quelque chose, il ressent quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il a perdu en vitesse et que le fait qu'il devienne, au fur et à mesure de la Coupe du Monde, peut-être un super sub pendant que les Dybala, les Alvarez aussi, qui peut jouer de son côté, fatigueront son adversaire direct, lui peut rentrer et faire la différence. Moi, je le verrai plus aujourd'hui en rentrant et en faisant la différence en deuxième mi-temps, par exemple, enfin dans la demi-heure, dernière demi-heure.
Je suis d'accord avec toi, Lionel. D'autant que Di Maria, en plus, il faut avoir en tête que son début de saison avec la Juve, il a joué que 10 matchs. Et il a joué des bouts de match à chaque fois, donc il a pratiquement jamais vraiment débuté à la Juve. Hein. Mm-hmm. Donc il arrive sur cette compétition un peu en cours de forme. Et en plus, le match, le huitième de finale face à l'Australie, c'est déjà samedi hein, pour les Argentins. D'ailleurs, ils râlent un peu en disant bah, il n'y a que trois matchs, il n'y a que trois jours pour préparer cette rencontre. Donc est-ce que justement, dans l'enchaînement des matchs, est-ce que Scaloni ne va pas décider de faire souffler Di Maria pour mettre un autre joueur? On a vu aussi Thiago Almada rentrer, il y a aussi Angel Correa sur le banc, donc il a des possibilités hein, Scaloni. On a vu qu'il n'hésitait pas quand même à faire des changements, il a à chaque fois fait 4 ou 5 changements par match, donc même si on sent qu'il y a un 11 qui se dégage maintenant, voilà, il n'hésite pas s'il sent que les joueurs physiquement ne sont pas à 100% à peut-être sortir des cas. Donc,
ça sera que les Argentins aiment les signes, superstition, voilà. Et là donc ils nous envoient les trucs, ils nous disent 78, Mario Kempes rate un péno au troisième match. 86, Maradona rate un péno au troisième match. 2022, Messi rate un péno au troisième match.
Bah, d'ailleurs, je pense que Messi l'a fait exprès. Hey, Georges, tu nous fais une petite chanson qu'il y avait au stade là ce soir, le Muchachos Ahora Volvimos a Ilusionar.
Bien sûr.
Il peut nous faire une chanson argentine.
La Mosca, ça. Ouais, la Mosca, c'est Muchachos. Ahora volvimos a ilusionar.
Après, plus fort là, t'as peur qu'il y ait des gens qui vont rentrer tôt ou quoi?
Lâche-toi, nous on adore les chansons parce que nous on a que allez les bleus, allez les bleus.
Non, maintenant on a et une et deux et trois étoiles.
Pitié. Alors vas-y.
Non, mais en gros le refrain c'est Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Les gars, maintenant on va rêver à nouveau. Quiero ganar la tercera, je veux gagner la troisième étoile. Quiero ser campeón mundial, je veux être champion du monde. Y Diego en el cielo lo podemos ver. Dans le ciel on peut le voir. Con Don Diego y con la Tota, ce sont les parents de Maradona, alentándolo a Lionel. Ils encouragent Lionel, c'est-à-dire que Maradona et les parents de Diego.
Ils sont tellement forts.
Ils mettent du Maradona dans tout, en fait.
Ah oui, c'est normal. C'est Dieu qui éclaire Lionel.
Il y a plein, bien sûr. Merci.
Et on sait qu'il écrit ses chansons.
T'es en train de chanter à la radio française. Qu'est-ce qui t'arrive?
Georges, qui écrit ses chansons?
C'est les supporters. Alors, c'est que souvent, c'était les Barras Bravas, qui ne sont pas à la Coupe du Monde, les sortes d'ultra... argentins, ils n'ont pas été conviés parce qu'il y en a eu 6000 qui ont été interdits de voyage par le gouvernement argentin. Mais sinon, c'est des supporters comme ça. C'est dans des déplacements. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns avant la Coupe du Monde. Ils ont acheté 2-3 bombos et ils ont dit bon, vas-y, on va créer quelques chansons. Il y en a plein des chansons hein, comme ça.
Ils font ça sur des airs connus de chansons populaires ou comment ils font?
Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. C'est sur soit sur des airs de cumbia, justement, c'est un peu la musique populaire ici, soit sur des airs de rock argentin. C'est que le rock argentin est très populaire. Et c'est toujours sur des chants comme ça. Alors après, c'est que par exemple, les supporters qui viennent de San Lorenzo, un des clubs de la capitale, est un des plus inventifs. Et je sais plus, ils avaient fait par exemple une chanson sur un air de Despacito. Tu te rappelles Despacito? Donc, mais en fait, le truc, c'est que dès qu'il y a une nouvelle chanson, dans les groupes de supporters et les groupes WhatsApp, en fait, ça passe très très vite comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils se passent les chansons. Et très vite, ça prend.
Les supporters français devraient s'en inspirer.
Je comprends pas comment, mais d'un coup, il y a 90 000 mecs. Non, mais du coup, t'as 80 000 mecs qui connaissent une chanson qui a été sortie la veille, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que ce qui est surtout super, c'est que ça raconte des histoires, en fait. C'est surtout ça qui est bon.
Le chambrage est une institution dans le foot sud-américain. En France, l'autre jour, on avait des supporters qui nous racontaient quand ils ont lancé Qui ne saute pas n'est pas danois. Ils ont dit non, faut pas dire ça. Il faut faire Qui ne saute pas n'est pas français. Mais franchement, les Danois n'ont pas les.
Bon, après, c'est tranquille. Bon, ici, l'un des
chambres. Qui ne saute pas est un danois, interdit.
Non. Ici, l'un des chants les plus fameux, c'est El que no salta es un inglés, celui qui ne saute pas un anglais, justement, en rapport à la guerre des Malouines. C'est l'un des chants des supporters argentins. À chaque fois qu'il faut redonner de l'énergie, on rappelle la guerre des Malouines, le côté patriotique et tout ça, pour réactiver. Mais il y en a plein des chansons. On pourra se faire une spéciale chanson un jour, si vous voulez.
Bah, avec plaisir. Par contre, faudra que tu chantes pour de vrai, pas que tu murmures pour faire style, j'ai la honte. Tu vois.
Faut lâcher un peu, faut envoyer.
Merci
Georges. Georges, juste pour savoir, excuse-moi, t'es en Argentine là?
toi tu vis là-bas?
Ouais, bien sûr, je suis abonné.
Et donc, l'ambiance, c'était quoi? C'était toutes les fenêtres ouvertes, t'entends que les matchs partout, personne dans la rue, c'est... J'imagine.
En gros, moi, je te dis, le match était à 16h ici aujourd'hui. Je suis sorti à 15h30 pour aller dans un bar, suivre le match ici dans le quartier de Recoleta, dans les quartiers centraux. Tout le monde courait dans la rue à 15h30. Tout le monde courait. Quitter le travail. Tout le monde a fermé la boutique. Les collèges ont fermé également. Les gamins sont sortis de l'école pour aller suivre le match.
Ouais, ils ferment les écoles et tout. Ils finissent avant.
Les écoles,
ouais.
Exactement. Et pendant le match, je suis en plein cœur de la ville en plus. T'entends. Toute la ville criait en fait. Moi j'étais dans un bar, alors il se trouve que dans ce bar il y avait 5 secondes de décalage, je pense, de retard avec toutes les télés du quartier, ce qui fait que t'entendais tout le quartier gueuler avant et t'as tous les supporters qui sortaient dans les balcons pour fêter ça. Tous les bus et tout ça en train de klaxonner, c'est ambiance finale de Coupe du Monde, il y a des gens ce soir à l'Obélisque.
En revanche, j'ai une tradition, c'est que les supporters argentins, quand ils se déplacent à la Coupe du Monde, ils sont parfois un peu en mode zadiste quand même. Je sais pas si tu les as vus ici à Doha. Et moi, j'ai souvenir au Brésil.
Ouais, ils sont à l'arrache, ouais.
Au Brésil, d'avoir vu des gars, ils venaient avec des vieux camping-cars tout pourris, tu sais, argentins.
Là, ils sont pas pu venir
en camping. Et en fait, leur délire, c'était d'aller à Copacabana. Ouais. De garer leur camping-car en face de la plage et après de le laisser et de rentrer en avion. Tu sais, genre, démerdez-vous avec nos vieux camping-car pourris, on vous les laisse ici.
Alors moi,
il y avait des trucs qui puaient, c'était infâme.
Ouais. Parce que je suis proche des supporters argentins, parce que j'en ai suivi quelques-uns avant de partir, et je suis toujours en contact avec eux. La plupart, ils sont logés dans un lotissement qui est à 30 bornes au sud de Doha, qui s'appelle le Baloua. En fait, c'est le lotissement le moins cher de toute la Coupe du Monde. C'est genre l'espèce de préfabriqué tout pourri. Ils ont deux lits par chambre et juste.
C'est là où était Dominique,
je crois. Peut-être.
Dans des bungalows. Là,
c'est les glues, c'est les containers.
Les containers, ouais.
Ouais. Non, mais je crois que c'est encore pire que ça. Et en fait, là-bas, ils font des en fait, ils font des tournois de foot. Ils ont créé un espèce de quartier argentin. Et on me racontait qu'ils ont volé des caddies des supermarchés, en fait, pour mettre du charbon dans les caddies, et que ça leur sert de barbecue.
Barbecue.
En fait, ils mettent au-dessus du caddie.
Mais où ils ont trouvé la viande? Parce que je suis allé au supermarché et tout, j'ai pas vu de la viande pour barbecue.
Ouais,
quand on est allé hier.
Ouais, la viande.
Ah, eux, ils ont peut-être.
Peut-être qu'ils ont buté 3 chameaux là. Ils ont fait un sado de chameaux.
Ça m'étonnerait pas.
Merci Jean.
Mais franchement, des parkings à chameaux, j'en ai vu.
C'est vrai.
Ah ouais? Mais comment? Comment ça?
Tu gardes ton chameau? Il y a le parking à chameaux.
Ouais, il y a le parking Vinci chameaux.
Ouais, comme un parking avec des chameaux.
Mais non.
Mais ça, c'est vrai.
Mais là, mais il n'y a pas Vinci chameaux.
Non, mais si tu gardes ton chameau devant.
Il y a des parkings à chameaux, c'est des bouts de terre. Enfin, les chameaux sont rangés les uns à côté des autres.
Il y a des parades de chameaux.
Comme des enclos, quoi. Ouais. Mais des parkings.
Ils sont capables de retrouver leur chameau derrière? Ils ont un truc pour
Oui, je pense que tu retrouves et tout. Enfin, je sais pas, oui, mais j'ai vu ça.
C'est là où tu mets l'embrouille. Tu sais, tu les mélanges quand tu as
même fait
les
photos. J'ai même fait des photos avec Jérôme. On vous enverra les photos si vous voulez.
Genre, je méfie toi parce que si tu croises un chameau en Argentine, les chameaux, ça a une très mauvaise haleine. Je te le dis.
Enfin, il va pas s'approcher la gueule du chameau.
D'où l'expression.
Ouais, mais tu la sens très loin. Merci Georges, bonne soirée.
Moi, je sais pas, vous en pensez ce que vous voulez, au-delà des affinités des uns et des autres, mais la passion pour le foot, le romantisme pour ce sport, est-ce qu'on aime de ce sport? Je pense, je serais pas malheureux si l'Argentine était championne du monde.
Allez, dans quelques instants, on parle de l'Australie.
Il y a un truc particulier quand même.
L'Australie qui se qualifie ce soir et qui fait la fête en pleine nuit, puisqu'il était 4h du matin à Sydney, l'Australie dans quelques instants dans l'after, avant la Ligue en tête.
RMC. After Foot, intégrale Coupe du Monde. Gilbert Brivois.
Clément est le vainqueur de notre jeu foot corner ce soir. Il a gagné le maillot de l'Argentine. Bravo Clément.
Beau cadeau le maillot de l'Argentine.
Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier est là pour les dernières minutes de l'after. Un petit tour vers la performance australienne qui, dans le groupe de la France, mine de rien, se qualifie. On a avec nous un journaliste franco-australien, Jérémy Docteur. Bonsoir. Enfin, j'allais dire
quoi de neuf.
Salut Jérémy.
Vous me la faites à chaque fois quand même. Hein.
c'est nous, on est assez répétitifs dans les blagues. Bon, dis-moi,
sacrée surprise. Hein.
L'Argentine qui va donc affronter l'Australie, on va en parler. Mais enfin, est-ce que tu t'attendais, toi, à ce que ce soit l'Australie qui passe là dans ce groupe de la France?
Non, honnêtement, non. Et je pense que personne en Australie s'y attendait. Le but, c'était vraiment d'essayer d'avoir une victoire pour la première fois depuis 12 ans, ce qui a été fait contre la Tunisie. Mais après, on enchaînait une deuxième. C'est plutôt assez extraordinaire. Et surtout de sortir de la poule avec deux victoires. Il y a un mois, même il y a un an, il y a six mois avec les qualifs, à quel point ça a été périlleux avec tous ces barrages. Personne n'y croyait. Le sélectionneur était énormément critiqué, l'équipe aussi. Donc là, c'est vraiment la super surprise. Et puis en plus de jouer contre l'Argentine, c'est plutôt sympa quoi pour l'Australie.
C'est la deuxième fois de l'histoire de l'Australie qu'il passe les... C'est le meilleur perf de l'Australie.
2006, ouais. Défaite contre l'Italie en huitième.
Exactement. Ça avait été un match tendu d'ailleurs.
Oui, penalty sur la fin, transformé par Francesco.
Là, c'était la grande. Sauf que là, c'était la grande Australie, Viduka et compagnie, exactement. Harry Kewell. Oui. Là, la version 2022 est plus faible, si je me trompe pas, Jérémy, quand même.
Ah oui.
Ouais, ça n'a rien à voir. Et disons qu'en 2006, tous les joueurs étaient plus ou moins au top de leur carrière dans des clubs établis en Europe pour la plupart, mais des équipes de top.
Ouais, c'était un peu Angleterre et Championship un peu.
Ouais, mais ça, tout le monde jouait régulièrement. Là, on a des joueurs qui sont plutôt soit remplaçants, soit dans des divisions 2 ou dans des ligues moins en vue, quoi.
En 2006, bah, la star de l'Australie, c'est la comment on s'appelle, le foot féminin là, comment elle s'appelle déjà, Mademoiselle Kerr, non, si j'ai pas de bêtises.
Sam Kerr,
la
ouais.
Star du foot. Voilà, la star du foot en Australie, c'est pas un garçon.
Ouais. C'est
elle. C'est pour dire voilà, on en est du foot australien.
Bah, le foot féminin est très suivi en Australie, ouais.
Oui. Et d'ailleurs, la prochaine Coupe du Monde est en Australie, féminine.
Ouais, en Nouvelle-Zélande aussi, ouais.
En 2006, t'avais Viduka devant, il était encore là, avec Craig Moore derrière.
Il était encore là, ouais.
Craig Moore derrière.
Ouais. Okay. Ouais, t'avais Kulina, là,
c'était une bonne. Ils avaient des bons joueurs, hein.
Ben, bien sûr, ouais.
Ouais, Viduka, ouais, il y a une belle équipe, ouais.
Bon, après, la contre l'Argentine, évidemment, ce sera un exploit surdimensionné.
Oui, ça devrait s'arrêter là.
Oui, normalement.
Mais c'est pas grave parce que c'est déjà bien de.
Exactement.
Honnêtement, personne s'attendait à ce qu'ils aillent aussi loin. C'est la troisième victoire finalement.
Ils ont mis en lumière l'échec retentissant du Danemark dont on n'a pas parlé. Mais le Danemark qui était présenté comme une bonne équipe européenne, qui avait fait un très bon euro,
ouais.
Qui restait sur deux victoires contre la France, s'est craché complètement dans cette Coupe du Monde avec ce match cet après-midi où ils ont fini défaits par l'Australie.
Et excusez-moi, mais l'Australie. Si elle n'avait pas gagné ce soir avec la victoire de la Tunisie, aurait aussi pu dire merci Deschamps pour le cadeau fait aux Tunisiens avec la compo que t'as mis.
Oui, c'est vrai. L'Australie aurait pu faire la gueule.
Exactement, bah oui. Jérémy, c'est où toi, ton coin en Australie ?
Je suis pas loin de Sydney.
Ah, oh, c'est chez Gilbert.
Enfin, ma famille, en tout cas, vient de là-bas.
Ah, magnifique. Quel pays. Extraordinaire. Bah écoute, merci pour ce petit clin d'œil australien. Et puis on verra en huitième hein, ce que ça donne. Je te souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Salut, Jérémy, à bientôt. Nico Villas, tout seul ce soir. Enfin, avec vous tous au 32-16. Parce que Thibaut Jogrand ne travaille pas tous les jours quand même.
Il n'a pas de remplaçant. Il est remplaçable, c'est Mbappé.
Il est irremplaçable, Thibaut. Surtout
non, mais
dans
Nico, l'heure. C'est le taulier.
Bah, mais Nico, oui. C'est un 6.
Mais attention,
il a l'âme du 6.
Tu sais qu'il s'est entouré. Plus, hein. Donc,
mais 6, hein, voire latéral droit, tu vois. Le truc
non,
bien
mais
dégueulasse.
T'es Kamavinga, en fait.
Non. Plus laborieux, dur sur l'homme, mais c'est un 6. Nico, c'est un mec sur qui tu peux compter, c'est le 6.
Voilà, mais c'est ça en plus, c'est vrai. Ça et porteur de cheville. Tiens.
Tu sais, ce qu'on est dans le sport et sur un terrain, c'est reflet de la vie.
Ah, tu me vois comme ça donc.
Bah, t'es un mec sur qui on peut compter.
Ouais, non, mais ça me touche.
Bien sûr, un peu quoi.
Ouais, non, mais tout à fait. Ouais. Putain, ça me change des lancements de Gilbert. Hein. Franchement, c'est sympa.
même quand on a dit des petites piques, tu sais
putain,
bien.
Putain, non commence pas, Gilbert.
Bon, Nico, bonne soirée.
Ouais, hein. Ciao, bisous, les gars. On vous attend au 32-16. Hein. Ouais, Libre Antenne qui arrive en 32-16. Alors, je suis pas tout seul parce que je crois que le studio va jamais être aussi blindé que ce soir. On a du supporter de la Tunisie, du Mexique, de l'équipe de France, de l'OL. Enfin, c'est. Vous savez que c'est n'importe quoi le 32-16 de la Libre Antenne. On vous attend, vous venez de parler de ce que vous voulez.
Ah, ça va, j'ai eu peur. Je te voyais tout seul. J'ai dit, il va falloir que je l'appelle pendant que je retourne à Auxerre et tout ça.
On sera sur Twitch, Lucien, vous le savez.
Bon, et bien, bonne soirée, mon poulet. Ciao, les mecs.
Bye bye.